Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Victor Ouvrard.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. En France, c'est un grand rituel de la vie sociale et politique. Tous les ans, le gouvernement annonce ou devrait annoncer le niveau de revalorisation du SMIC, le salaire minimum de croissance. Ces derniers temps, cette revalorisation a été minime quand elle n'a pas été nulle. Mais ailleurs, le salaire minimum connaît des progressions importantes en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Californie. Aux États-Unis, le niveau du salaire minimum fait même l'objet d'un débat dans le cadre des primaires démocrates entre Hillary Clinton et Bernie Sanders. Rares sont les pays où le niveau du salaire minimum, quand il existe, ne fait pas débat d'ailleurs. Trop faible, les smicards se plaignent de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Trop élevé, les employeurs se plaignent de ne plus être compétitifs. Alors le salaire minimum est-il un bonus pour l'économie ou est-ce un frein ? Favorise-t-il l'emploi ou génère-t-il du chômage ? Y a-t-il une règle valable partout et dans toutes les situations économiques ou est-elle variable ? Le salaire minimum est-il réservé aux pays développés ? Telles sont quelques-unes des questions que je vais poser aux deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Étienne Lehmann.
Bonjour.
Étienne Lehmann, vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 2, Panthéon 1-Sas. Vous y êtes directeur adjoint du Centre de recherche sur l'économie et le droit. Vous êtes également membre, ai-je lu, du Conseil des prélèvements obligatoires, une institution chargée de surveiller l'impact des impôts et de conseiller le gouvernement le cas échéant. Pour vous, Étienne Lehmann, le salaire minimum, c'est une variable économique importante ?
Tout d'abord, juste une précision, je ne m'exprime pas au nom du Conseil des prélèvements obligatoires, mais en mon nom propre. Ceci étant dit, oui, le salaire minimum est une variable importante dans la régulation des salaires et dans la régulation de l'économie, pour des raisons multiples et nombreuses. Pourquoi ? Parce que le problème numéro un de notre économie, me semble-t-il, c'est le problème de l'emploi. Le problème de l'emploi se concentre sur des populations très précises, les jeunes, la fin de la vie active et les moins qualifiés. Et en tout cas, pour les deux premières, le salaire minimum est une variable importante, me semble-t-il.
Avec nous également dans ce studio, Benjamin Coriat. Bonjour.
Bonjour.
Benjamin Coriat, vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 13. Vous êtes également membre du collectif des économistes atterrés qui milite pour une autre politique économique que celle suivie actuellement, en particulier en France. Est-ce que le niveau du salaire minimum français fait partie de vos préoccupations ?
Ah ben certainement, enfin en tout cas comme économiste et comme citoyen certainement, pour deux raisons. D'abord parce que effectivement c'est une variable macroéconomique tout à fait importante. On va sans doute le développer dans le cours de cette émission.
Absolument.
Et puis deuxièmement parce que pour beaucoup de travailleurs qui sont dans les plus bas de l'échelle, donc au SMIC, si on tient compte du fait que tous ne travaillent pas à plein temps, même 35 heures par semaine, loin de là, on arrive, même avec un niveau de salaire minimum décent, ou même s'il était augmenté aujourd'hui, à des niveaux de revenus qui, pour beaucoup de gens, sont insuffisants. Et donc, on est dans cette situation de travailleurs pauvres, qui est une situation relativement nouvelle. Parce qu'autrefois, quand on avait un emploi, on était à peu près tiré d'affaire.
On va y revenir, mais laissez-moi vous préciser qu'au cours de cette émission, nous écouterons de nombreux reportages. Nous irons à Los Angeles, en Californie, retrouver Tessa Gromad, à Berlin en Allemagne, où Pascal Thibault nous attend, à Praia au Cap-Vert où se trouve Guillaume Thibault, et à Pékin où nous avons rendez-vous avec Heike Schmidt. Étienne Lehmann, une question que je vous pose à vous. D'abord, est-ce qu'il y a longtemps que le salaire minimum existe en France ? Quelle est son histoire ?
Le salaire minimum a succédé au salaire, donc le SMIC, tel que l'on connaît à l'heure actuelle, a succédé au SMIG, qui existait, je crois, depuis 1950 et qui a été remplacé en 1968. C'est la grande différence, c'est que le SMIG n'était indexé que sur l'inflation. Et au cours des Trente Glorieuses, les salaires ont augmenté beaucoup plus vite que les prix, si bien qu'on s'est rendu compte que l'ancien SMIG était beaucoup trop faible. Et donc, suite aux événements de mai 68 et aux accords de Grenelle, a été mis en place le SMIC, qui non seulement prévoyait une revalorisation de ce salaire minimum, mais aussi une indexation sur les taux de salaire ouvrier.
Et qu'est-ce qui a suscité cette création, Benjamin Coriat? C'est un décalage vraiment trop important entre les revenus et la hausse des prix?
Oui, c'est ça, c'est ce qui a été expliqué. Et puis l'idée, c'était aussi de l'accrocher davantage à la croissance réelle, si je peux dire, et pas seulement à la hausse des prix. Bon, en soi, c'est une évolution qui était pas anormale, hein.
C'est-à-dire?
Eh ben, c'est-à-dire que on essayait de se coller davantage à la réalité, d'une certaine manière. Alors, le niveau du salaire versé a pas toujours été favorable, hein, pour les salariés, mais c'est vrai qu'on était dans une situation de très haute inflation, hein, et que il y avait des choses à faire. Hein. C'est jamais très sain, une haute inflation.
Est-ce que la France a été un pays précurseur en la matière, Étienne Lehmann, ou est-ce que c'était un mouvement général?
Alors, l'une des spécificités du SMIC à la française, c'est d'être complètement dirigé par les puissances publiques et déconnecté de la négociation salariale et d'être uniforme. Pendant longtemps, il n'y a pas eu de salaire minimum en Allemagne parce que les syndicats et les partenaires sociaux, la négociation salariale faisaient ce travail. Et donc ça, c'est, en tout cas, c'est une spécificité française qui reste aujourd'hui un marqueur fort.
C'est un salaire politique, le SMIC en France?
Non, moi je ne dirais pas que c'est un salaire politique, mais il faut bien se resituer dans le contexte de l'époque. Hein. Le contexte de l'époque, c'est...
68, donc.
Oui, 68 ou auparavant, puisque ça existait sous d'autres formes. C'est ce qu'on a appelé le fordisme, hein, c'est-à-dire une période pendant laquelle il y avait des liens étroits entre les gains de productivité, l'inflation et les hausses salariales. Hein, c'est-à-dire qu'on on reliait le salaire aux gains de productivité et à l'inflation. Alors ça existait à la fois dans les contrats salariaux, d'entreprises, de branches, etc. On a instauré une voiture balai, si je peux dire, qui est le salaire minimum. Donc c'est un dispositif d'ensemble, un peu étatique, si on peut dire, à la française. Hein. En France, on a toujours eu une forte présence des pouvoirs publics dans l'économie, et conventionnel. Et il faut quand même rajouter que l'ensemble de ce dispositif a été très favorable à la croissance pendant très longtemps.
Pourquoi, Étienne Lehmann? Pourquoi est-ce que ce dispositif est favorable à la croissance? Est-ce que c'est votre avis d'abord?
D'abord, ce n'est pas mon avis, mais c'est vrai.
Ah, mais ça, c'est pas tellement discutable. Hein. Ça veut dire que là, ce que j'ai en tête, c'est les 30 glorieuses.
Hein. Les 30 glorieuses, oui, mais enfin, les 30 glorieuses, justement.
Exprimez-vous, Étienne Lehmann.
Justement, dans les 30 glorieuses, le salaire minimum pour les 30 glorieuses, en gros, en termes réels, n'évolue pas. C'était ça la faiblesse du SMIC. Donc, justement, on était dans une période de forte croissance avec des gains de productivité élevés. Et j'ai quelque part où la croissance des salaires était déconnectée, justement, de ce salaire minimum. Donc, comme vous l'avez dit, on a fait en mai 68, on a mis en place, c'est pas en mai 68 d'ailleurs, c'est à l'issue de mai 68 lors des accords de Grenelle, la transformation du SMIG en SMIC a été en fait un petit peu la volonté de mettre en place une voiture balai, comme vous l'avez dit, justement pour rattraper la croissance des salaires. Mais les 30 glorieuses, justement, le SMIC n'était quasiment plus mordant.
Non, mais il faut parler de l'ensemble du dispositif. Alors, l'ensemble du dispositif, c'est quoi? C'est des structures conventionnelles. Négocier, oui. Syndicat, patron, soit au niveau des entreprises, soit au niveau des branches, qui liaient directement les gains de productivité et l'inflation au salaire et qui a permis une augmentation du pouvoir d'achat par 3 en 30 ans. Bon, et par derrière, la voiture balai. Donc, je ne dis pas que c'est le SMIC qui était le dispositif central, c'est l'ensemble du dispositif. Et ça, c'est pas contestable que c'est les meilleures années en termes de croissance du capitalisme français, comme d'ailleurs des pays développés, et que cette augmentation par 3 du pouvoir d'achat, ça fait bien longtemps qu'on l'a pas connue.
Regardez ce qui s'est passé dans les 30 dernières années. On va voir si on peut répliquer et continuer ce débat en prenant d'autres exemples. Que l'exemple français, l'Allemagne, première puissance économique européenne, a introduit un salaire minimum de 8,50 € de l'heure le 1er janvier 2015. Il y a donc presque un an et demi, une mesure qui est très populaire. Une étude divulguée cette semaine en Allemagne montre que 4 millions de salariés ont profité de cette réforme. Et c'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Pascal Thibault à Berlin.
Berlin-Siemenstadt. Dans ce quartier, plusieurs centres d'appel se sont installés. Un énorme bâtiment en briques rouges abrite une tour de Babel moderne dans différentes langues. Des sociétés spécialisées gèrent la clientèle de grosses entreprises. Christian Fath travaille depuis le début de la décennie dans un des centres d'appel. Avant l'introduction du salaire minimum, il gagnait un peu plus de 6 euros de l'heure. Mais son salaire de 1100 euros net après impôt n'a augmenté que de 10 euros par mois depuis. Ses dernières vacances remontent à 2010. Il a dû déménager dans un quartier périphérique pour trouver un loyer plus abordable.
En fait, je gagne pratiquement la même chose qu'avant, ce qui s'explique par des primes moins importantes. La question, c'est comment vivre avec ce salaire minimum. Aujourd'hui, je m'en sors, mais si je ne gagne pas plus à l'avenir, je ne pourrai plus m'en sortir lorsque je serai à la retraite.
Les syndicats dénoncent les tricheries de certains employeurs qui ne payent pas des heures supplémentaires ou demandent pour des ouvriers du bâtiment, par exemple, un loyer prohibitif pour un hébergement de misère. Les contrôles restent très faibles. Mais les syndicats restent satisfaits globalement. Stefan Körzel de la Confédération des syndicats, le DGB.
Nous tirons un bilan positif de cette réforme. 4 millions de personnes en ont profité. C'est ce que nous voulions. Nous n'avons jamais eu peur de perdre nos emplois, comme certains l'annonçaient. L'histoire nous a donné raison. Nous sommes heureux que cet art allemand ait disparu.
Le patronat allemand a critiqué la réforme et notamment la paperasse qu'elle crée à ses yeux pour les entreprises. Renate Hornung-Draus de la Fédération des employeurs allemands.
Le bilan que tire le patronat allemand est négatif. La loi oblige des entreprises à une bureaucratie, à une documentation vraiment excessive. Ce que nous demandons, c'est des règles beaucoup moins bureaucratiques de documentation, notamment sur les temps de travail.
Le patronat réclame des exemptions supplémentaires. Elles existent déjà pour les jeunes de moins de 18 ans, les chômeurs de longue durée ou les stagiaires. Les employeurs souhaiteraient les étendre aux réfugiés. Les syndicats rejettent toute exception. Pour les migrants, ils estiment que cette proposition nourrirait les ressentiments de la population si une personne touchant le salaire minimum était remplacée par un réfugié. Une commission paritaire syndicat-patronat doit d'ici fin juin présenter ses recommandations, notamment sur une hausse du salaire minimum début 2017. Le gouvernement tranchera ensuite.
Un reportage signé Pascal Thibault à Berlin. Pourquoi l'Allemagne en est-elle venue à créer un salaire minimum, Benjamin Coria?
Pour, on va dire, le gros des travailleurs, il n'y en avait pas vraiment besoin dans la mesure où les questions salariales étaient traitées dans les conventions de branche. Bien. Mais les lois Hartz ont créé la possibilité de toutes sortes de mini-jobs, hein, extrêmement mal payés, notamment dans les services, etc. Il y a eu ensuite le phénomène des travailleurs déplacés, sur lesquels on ne payait pas de cotisations sociales et sur lesquels les contrôles étaient très faibles, bon, qui a créé une très grande catégorie de travailleurs pauvres avec des très bas salaires. Et donc, pour remédier à cette situation, sachant que au niveau conventionnel, ça ne pouvait plus convenir, que c'était plus le lieu adapté pour traiter ce problème, il y a eu une négociation politique hein, au moment de la constitution de la nouvelle grande coalition entre le SPD et les chrétiens démocrates et les sociaux-démocrates. Et le SPD a imposé, d'une certaine manière, hein, c'était une des conditions, ce salaire minimum. Et l'Allemagne s'en porte extrêmement bien, hein, parce qu'on avait annoncé 900 000 emplois perdus. Hein, en fait, il y a eu 400 000 emplois gagnés. Alors, c'est pas entièrement imputable au SPIC, certainement pas. Hein, mais je veux dire, ça n'a pas gêné du tout la poursuite de la croissance et la poursuite de la reprise de l'emploi.
Étienne Lehmann, vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Benjamin Coriat?
Bah d'abord, enfin, on observe éventuellement l'évolution de l'emploi avec SMIC, mais on n'observe pas ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu de SMIC. Donc, c'est toute la difficulté de l'évaluation des politiques publiques. Enfin, au-delà, je voudrais quand même dire quelque chose sur justement un petit peu la logique qui a présidé le SPD à demander effectivement l'introduction du salaire minimum dans la coalition. C'est-à-dire qu'en fait, le salaire minimum donne l'illusion, quand on est au pouvoir, de faire de la redistribution sans que ça ne coûte. Moi, je crois que le bon instrument pour la redistribution, c'est pas le salaire minimum. Moi, je crois que la bonne manière d'aider effectivement les travailleurs pauvres à sortir de la pauvreté, c'est ce qu'on a en France. Ce serait une prime d'activité plus importante en France. En tout cas, c'est l'instrument fiscal. C'est justement pour laisser le plus possible la création d'emplois économiquement viables dans les services à la personne, ce qui a correspondu au mini-job, tout en étant socialement acceptable d'utiliser l'instrument fiscal. Or, le salaire minimum donne une illusion. C'est qu'avec le salaire minimum, c'est pas l'État qui paye. Et lorsque l'on augmente le salaire minimum, on augmente le coût pour l'employeur, et le temps que les effets sur l'emploi se manifestent, les effets de demande de travail, ça prend du temps à se manifester. Et donc, c'est pour ça qu'on a ces cette illusion qu'avec le salaire minimum, on peut redistribuer sans coût pour les finances publiques. Mais je crois que le SPD a fait cette erreur.
Benjamin Coriat, est-ce que ce que dit Étienne Lehmann n'est pas attesté par ce qui vient de se passer en Grande-Bretagne, où le gouvernement conservateur vient de décider d'augmenter lui aussi le salaire minimum pour justement réduire les subventions que lui verse.
Mais bien sûr, moi je conteste tout à fait ce qui a été dit. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout laisser s'exprimer une répartition primaire, c'est-à-dire salaire-profit, totalement inégale, et ensuite compensée par de la distribution secondaire à travers l'impôt. Ce qui est sain, c'est que la distribution primaire soit le plus équilibrée possible. Ça veut dire que les richesses créées par l'entreprise, il y en a une part significative qui reviennent au salaire. Parce que si on commence par créer cet écart au départ, ensuite, il va y avoir nécessité d'une ponction fiscale élevée, des problèmes extrêmement complexes de redistribution de cette ponction fiscale, tout ça, à mon avis, est assez malsain. Ça veut dire que, dans toute la mesure du possible, il faut commencer par une distribution primaire saine. Parce que sinon, on se lance dans une course-poursuite où on ne peut que perdre.
Étienne Lehmann, une réponse brève l'argument de Benjamin Coriat.
Soyons factuels. Comparons un petit peu les pays de l'OCDE qui ont des taux d'emploi élevés. Aux États-Unis, les trois quarts de la population, grosso modo, en âge de travailler ont un emploi. En France, on est à peine à 60%. Pourquoi ? Parce que les emplois qui nous manquent, ce sont des emplois dans les services, essentiellement des emplois mal payés. Ce qui correspond à ce qui a été implémenté en Allemagne à travers ce que vous appelez les mini-jobs. Donc pour moi, la question, c'est comment on fait pour créer en France les emplois qu'on ne sait pas créer actuellement, qu'on ne crée pas assez, de manière qu'ils soient à la fois économiquement viables pour l'employeur et socialement, politiquement acceptables en termes de redistribution.
Alors, nous avons un salaire minimum en France qui fait l'objet d'un débat. On le constate, il y en a un en Allemagne, en Grande-Bretagne et dans beaucoup d'autres endroits. Mais pour Bernard Thibault, l'ancien secrétaire général de la CGT, le grand syndicat français, qui a rencontré Patricia Lecomte, cela ne suffit pas. On l'écoute.
Le mouvement syndical milite pour que l'on puisse négocier d'un indicateur européen qui tienne compte de la richesse produite du pays, qui tienne compte peut-être du facteur de population, qui tienne compte des facteurs démographiques, mais qu'on ait un indicateur commun, justement. Et puis qu'on progresse vers une harmonisation, parce que moi, ce que je regrette, c'est cet énorme différentiel au sein même des pays de l'Union européenne entre les normes internationales du travail. Le dernier pays ayant ratifié des normes internationales du travail, c'est la Lettonie qui a ratifié 40 conventions sur 200 conventions internationales du travail. Et le premier et le deuxième pays, c'est l'Espagne et la France qui en ont ratifié respectivement 133 et 128. Il n'est pas normal, selon moi, qu'il y ait déjà autant de différences de respect des normes internationales du travail entre pays européens. Les gouvernements européens, parce que la responsabilité est avant tout politique, entretiennent de fait la mise en concurrence des travailleurs européens déjà dans l'espace européen, là où les échanges sont très importants. Et je ne parle pas d'une mise en concurrence avec d'autres continents, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique.
Bernard Thibault, qui publie un livre intitulé « La troisième guerre mondiale et sociale » aux éditions de l'Atelier, c'est imaginable un salaire minimum ou une norme de salaire minimum qui s'appliquerait à un espace aussi vaste, aussi divers que les 28 pays de l'Union européenne, Benjamin Coriat ?
C'est extrêmement souhaitable. Alors, d'abord, il faut bien dire, on va pas avoir le même salaire minimum partout, hein, mais ça sera une norme. Ça veut dire qu'il faudra imposer des choses du type que le salaire minimum dans chaque pays représente entre, on va dire, 50 et 60% du salaire médian. Bon, quelque chose comme ça, de manière à ce que, évidemment, en Lettonie et en France, on verse pas les mêmes salaires, parce que on s'en doute bien. Mais c'est indispensable. Ça veut dire que si on veut conserver un minimum de solidarité en Europe, aller vers de la convergence sociale comme aller vers de la convergence fiscale est absolument indispensable. Sinon, tout va exploser et ça sera la guerre de tous contre tous.
On continuera ce débat avec Étienne Lehmann et Benjamin Coriat sur le salaire minimum dans la deuxième partie de cette émission, parce que pour l'instant, nous avons rendez-vous avec un flash d'actualité. À tout à l'heure.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Victor Ouvrard.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré au salaire minimum, pas seulement comme phénomène social, mais aussi beaucoup comme facteur économique. Est-ce un facteur de croissance par le soutien qu'il induirait à la consommation ou un frein à l'activité économique et à l'emploi? Au cours de la première partie de cette émission, nous avons vu avec nos deux invités Benjamin Coriat, membre des économistes atterrés, Étienne Lehmann, directeur adjoint du Centre de recherche sur l'économie et le droit à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, que l'Allemagne avait fini par rejoindre la cohorte des pays qui avaient déjà un salaire minimum. Nous avons aussi entendu, à la fin de cette première partie, l'ancien patron de la CGT, le grand syndicat français, Bernard Thibault, souhaiter qu'existe une norme de salaire minimum européen. Est-ce quelque chose de réalisable? Et je demandais à Benjamin Coriat. C'est la question que je vous pose aussi, Étienne Lehmann, en ce début de deuxième partie. Est-ce que c'est réalisable d'imposer un salaire minimum, même variable, sur une étendue aussi vaste que l'Union européenne et aussi diverse?
Moi, je pense que ce qui est surtout souhaitable, c'est que ce minimum salarial soit négocié par des partenaires sociaux. En fait, c'est quoi le rôle d'un salaire minimum imposé par la loi qu'on pratique en France? C'est pour reprendre l'image de Benjamin Coriat, c'est effectivement de jouer le rôle de la voiture balai quand les syndicats ne sont pas assez forts pour le faire. Donc, que l'on ait une convergence européenne à partir du moment où on aurait des partenaires sociaux qui, idéalement, seraient capables de faire ce travail et d'adapter cette norme minimale selon les conditions économiques du pays et de la région, c'est sans doute quelque chose de désirable. Mais il faut faire attention, à mon avis, à ce que ce soit justement négocié pour que cette norme soit le plus possible adaptée aux spécificités géographiques, aux spécificités du pays, aux spécificités du secteur et à l'exposition à la concurrence.
Benjamin Coriat.
Oui, moi je suis tout à fait favorable, partout c'est possible, à ce que ça soit négocié. Hein. Les dispositions négociées par les partenaires et sur lesquelles ils parviennent à des accords sont en général mieux ficelées, si j'ose dire, hein, que des solutions imposées de l'extérieur. Mais il y a toute une série de situations dans lesquelles les rapports de force sont tels que, etc., on n'arrivera pas à établir un salaire minimum et un salaire minimum décent. Et donc de ce point de vue, qu'il y ait une norme qui pousse les partenaires à s'y ajuster est plutôt souhaitable. Quand on a fait l'Europe, hein, on a imposé des critères de convergence hein, qui étaient une inflation extrêmement basse, des déficits budgétaires réduits à trois fois rien, pas d'endettement public. C'était extrêmement violent. Hein, c'était extrêmement violent. On n'a pas demandé aux partenaires de se mettre d'accord. C'était des conditions qu'il fallait atteindre. Et on a pratiqué dans toute l'Europe des politiques d'austérité pour arriver à cette convergence. On aurait été très inspiré à cette époque-là d'introduire en même temps de la convergence fiscale et de la convergence sociale. On n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui.
Vous croyez que dans l'état où est l'Europe aujourd'hui, c'est faisable cette convergence salariale?
Alors, je vais pas monopoliser la parole. C'est effectivement extrêmement difficile, mais c'est une des conditions pour sauver l'Europe. Sinon, elle va disparaître. Donc, il n'y a pas le choix.
Factuellement, un désaccord. Il y a de l'austérité fiscale dans certains pays de l'Union européenne aujourd'hui, c'est clair. Dire que la France serait dans une situation d'austérité fiscale, alors que depuis des années, on est en dehors des clous du 3% de déficit et qu'on se félicite aujourd'hui.
Non, juste une chose. Je parlais de l'époque où on a fait la convergence vers les normes. D'accord. Alors après, pour aujourd'hui, on peut en rediscuter.
Je trouve qu'en ce moment, en France, justement, on n'est absolument pas dans une situation d'austérité fiscale, ni monétaire, serais-je en train de dire. On n'a jamais eu la politique monétaire conduite par la Banque Centrale Européenne, n'a jamais conduit à mener des taux d'intérêt aussi bas qu'à l'heure actuelle. Nous avons, ces dernières années, l'Europe finalement nous a laissé nous endetter largement en dehors des clous prévus par les traités. Donc ce diagnostic d'austérité fiscale, il existe pour la Grèce, certes. En tout cas, ce n'est absolument pas notre situation. Alors après, oui, effectivement, moi je suis pour plus d'Europe, et je suis pour un certain nombre de choses. C'est quoi la difficulté finalement de l'intégration européenne? Comment on fait pour mettre en commun un certain nombre de politiques là où la concurrence entre les pays est trop nocive, tout en maintenant un certain nombre de diversités là où des pays veulent faire des choix différents. Moi, si vous voulez qu'on fasse l'harmonisation entre les Français et les Anglais, on sait très bien ce qui ça va se passer. Les Anglais voudront imposer le niveau d'inégalité qu'ils sont prêts à accepter dans leur pays, et les Français ne voudront pas. Donc comment on fait pour concilier les deux? Il y a des politiques à mettre en commun. Typiquement, là où les facteurs sont mobiles, il faut une harmonisation dans la fiscalité du capital parce que, justement, là, c'est un sujet où la compétition est beaucoup trop intense pour laisser trop de diversité. Par contre, lorsque vous avez des pays qui sont très différents en termes de productivité ou en termes de désir pour la redistribution, il faut laisser une certaine marge d'autonomie.
On va continuer ce débat, mais en prenant un autre exemple que l'exemple européen. Nous partons aux États-Unis où il y a un salaire minimum fédéral qui est fixé par le Congrès, qui est en ce moment de $7,25 et qui n'a pas bougé depuis 7 ans. Et puis, certains États peuvent décider d'un salaire plus haut ou plus bas, selon leur majorité politique. La Californie a voté, il y a tout juste 2 semaines, une loi qu'on présente comme historique sur le salaire minimum. Ce texte engage un processus qui, d'ici à 2022, fera passer le salaire minimum à $15 l'heure contre $10 aujourd'hui. Cette hausse progressive devrait permettre à 5 millions de personnes de sortir de la pauvreté, mais dans l'État le plus peuplé des États-Unis, la Californie, cette réforme ne fait pas l'unanimité. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Tessa Groman à Los Angeles.
This is an important day. Let's keep it going. We're not stopping here.
Jerry Brown, le gouverneur de la Californie, en avait fait son cheval de bataille. Un jour important, a-t-il annoncé juste après l'adoption du salaire minimum à $15 de l'heure.
Ça va beaucoup changer ma vie. Je vais pouvoir aider ma famille maintenant.
Frank Trejo travaille dans un McDo depuis 3 ans au salaire minimum, $10 de l'heure. Un montant, dit-il, insuffisant pour payer ce qui est essentiel à son existence.
Utilities and just...
Le loyer, l'eau et l'électricité. Et c'est dur de ne pas pouvoir acheter de voiture. En général, je vais au travail à pied. C'est 2 km aller-retour. Et je travaille de 4 heures du matin à midi.
Franck est bien sûr ravi de la hausse programmée du salaire minimum. Mais en Californie, beaucoup sont opposés à la nouvelle loi. Selwyn Yoslowitz est le propriétaire du Marmalade Café, une chaîne de restaurants qui emploie 400 salariés à Los Angeles. La hausse progressive du salaire horaire minimum $1 par an sur 5 ans est une obligation dont il se serait bien passé, même s'il a déjà trouvé la solution pour s'y plier.
On va augmenter nos prix sur le menu, autrement ce ne sera pas possible de fonctionner à ce niveau de salaire. Je ne vois pas comment cela va aider le marché de l'emploi. Au contraire, il va falloir réduire le nombre d'employés et optimiser le service.
Les Marmalade Café sont situés dans les quartiers chics de Los Angeles, là où les clients sont prêts à payer plus cher pour le même service. Mais ce n'est pas le cas partout en Californie, où certaines régions sont au contraire très pauvres. Jacob Vigdor, professeur d'économie à l'Université de Washington, a étudié l'impact du salaire minimum en Californie.
Les projections les plus favorables sur une loi comme celle-ci indiquent qu'elle aura un succès mitigé. Pour les salariés qui travaillent dans des régions riches, le salaire minimum se traduira par un revenu plus élevé. Dans d'autres régions de la Californie ou dans d'autres cas de figure, un salaire plus élevé peut tout à fait aboutir à des revenus inférieurs, voire à la perte de son emploi. C'est une des leçons que l'on peut tirer de la mise en place du salaire minimum. Ce n'est pas parce que cela fonctionne bien quelque part que cela va fonctionner tout aussi bien partout ailleurs.
Jacob Vigdor souligne que le salaire minimum ne vise pas à soutenir l'économie, mais à mieux en redistribuer les richesses. Il dit aussi qu'il faudra au moins 7 ans pour mesurer les effets de cette loi en Californie.
Alors c'était un reportage signé Tessa Groman à Los Angeles. Vous voyez, c'est la même chose qu'en Europe, la même chose que ce que vous disiez, Benjamin Coriat et Étienne Lehmann, avant la diffusion de ce reportage. Il y a possibilité ou non de voir les aspects bénéfiques de ce salaire minimum selon qu'on est dans une région plus ou moins riche. Est-ce que c'est aussi votre avis, Benjamin Coriat, ou est-ce que le salaire minimum est un atout partout, toujours et tout le temps?
Non, on peut pas être aussi, simpliste et donner une réponse comme ça. Oui, partout, tout le temps, etc. Mais la politique du salaire minimum, même dans des endroits hétérogènes, si elle est conduite de manière intelligente, est un instrument essentiel de croissance. Quelle est la question qui est importante derrière ? Il faut raisonner en macroéconomie. Et en macroéconomie, tout dépend de l'importance de la demande intérieure dans le produit brut. Et si la demande intérieure, qui est dans beaucoup de pays le facteur essentiel du maintien de la croissance et de l'emploi, s'affaisse, donc si les salaires sont insuffisants, on va pas y arriver. Donc de ce point de vue, maintenir une voiture balai qui maintient un pouvoir d'achat suffisant, qui maintient une demande intérieure suffisante, a été historiquement, quand on pense précisément aux Trente Glorieuses, etc., et à notre expérience en Europe et dans les pays développés, un instrument tout à fait important de la croissance. Mais une économie, ça se pilote. On fait pas l'économie adaptée à chaque micro-situation.
Étienne Lehmann, je vous ai entendu sourire très violemment, même rire.
Effectivement, il y a des arguments pour augmenter le salaire minimum. Mais l'argument de la demande intérieure ne me semble pas un bon argument. Pourquoi ? Parce que la demande intérieure, ça vient d'où ? Il faut avoir des revenus pour consommer. Les revenus, ils viennent d'où ? Ils viennent des salaires. Les salaires, ils viennent d'où ? Ils viennent du fait que les entrepreneurs aient intérêt à, effectivement, à mettre en place leur activité économique. Et c'est le fameux cercle économique qui est là en jeu. Et donc, in fine, on se rend compte que quand on est, justement, quand on raisonne à l'équilibre général en macroéconomiste, on se rend compte qu'à un moment donné, sur le long terme, ce qui compte, une fois qu'on a fait tous les bouclages, prix salaire et ce genre de choses, l'équilibre macroéconomique dépend de est-ce que oui ou non, on a les entrepreneurs ont l'incitation à embaucher et à créer des emplois et à créer de l'activité.
C'est fonction de la demande et donc des salaires, si on boucle.
C'est l'histoire de l'œuf et la poule, ce que vous me racontez.
Bon, non, absolument pas. C'est pas du tout. Alors là, je suis vraiment en désaccord. Je veux dire, regardez aujourd'hui la Chine. Ils sont cassés dans leurs exportations compte tenu de l'état de la situation mondiale. Leur solution, c'est quoi ? C'est de se retourner vers leur marché intérieur. Il y a une pression très forte pour augmenter le salaire intérieur qui est absolument dérisoire dans toute une série de régions parce que c'est leur seul levier de croissance. Et ça, on n'en sort pas.
Alors, justement, nous partons en Chine où la situation semble démontrer que le salaire minimum est peut-être aussi fonction des cycles économiques. Le gouvernement met en effet en ce moment à Pékin la pédale douce sur l'évolution du salaire minimum. Pour en parler, nous rejoignons notre correspondante à Pékin, Heike Schmidt. Heike, la Chine a mis en place un salaire minimum, mais ce n'est pas le même pour tout le pays, n'est-ce pas ?
Le niveau de vie est tellement différent d'une région à l'autre qu'un SMIC chinois n'aurait guère de sens. Mais depuis les années 90, le Code du travail prévoit bel et bien un salaire minimum légal qui doit être fixé à un niveau suffisant pour répondre aux besoins quotidiens des employés. En principe, il doit croître chaque année d'au moins 13%, ce qui a été le cas ces 6 dernières années, mais il doit représenter aussi 40 à 60% du salaire moyen, ce qui est loin d'être le cas. Dans la majorité des villes, le SMIC ne représente même pas les 40% du salaire moyen.
Ça n'est pas beaucoup, évidemment, mais qui fixe le montant de ce salaire minimum, Heike ?
Ce sont les gouvernements régionaux qui doivent chaque année annoncer le montant. Quelques éléments à prendre en compte, par exemple le coût de la vie au niveau local, les prix à la consommation ou encore le salaire moyen dans la province en question. Donc tout SMIC est basé sur les données locales, ce qui fait que les montants varient énormément d'une région à l'autre. Évidemment, les salariés les mieux payés vivent dans les provinces côtières, celles donc qui sont le plus développées. Les salaires les plus bas sont payés dans les provinces centrales et dans le nord, qui sont les plus pauvres. À titre d'exemple, dans la Heilongjiang, le SMIC s'élève à 1160 yuan, soit 157 euros, tandis que celui de Shenzhen, dans le sud, s'élève à 2030 yuan, soit 275 euros.
Est-ce que ça suffit pour subvenir à ses besoins ?
Non, comme l'a constaté l'organisation China Labour Bulletin, le SMIC chinois n'a jamais suffi pour répondre aux besoins quotidiens. Impossible d'en vivre si on n'accumule pas les heures supplémentaires ou bien un deuxième petit boulot pour arrondir justement les fins de mois.
Heike Schmidt, on sait que le moteur économique chinois est en train de caler, que la croissance est moins forte. Est-ce que cela se ressent sur le salaire minimum ?
Oui, je vous disais qu'en principe, le SMIC doit augmenter chaque année de 13%. Cela a été dit dans le plan quinquennal valable entre 2011 et 2015. Mais entre-temps, avec les temps des vaches maigres, Pékin ajuste ses promesses. Dans la nouvelle feuille de route, les autorités ne mentionnent plus aucun chiffre précis et se contentent donc de souhaiter une augmentation qui, je cite, doit être raisonnable.
Alors c'était Heike Schmidt à Pékin et c'était Codici et Codailleurs sur RFI. Nous parlons du salaire minimum avec deux invités, Benjamin Coriat, membre du collectif des économistes atterrés, et Étienne Lehmann, professeur d'économie à Paris 2, Panthéon Assas. On revoit surgir le mot de productivité que vous avez employé tous les deux, en tout cas vous, Benjamin Coriat, au début de l'émission concernant la Chine.
Ben oui, bon, d'abord, dans le reportage qui a été présenté, on a plusieurs choses qui sont importantes. Donc l'idée qu'il y a des différences de salaire minimum suivant les provinces, et ça paraît absolument normal, parce que c'est un continent. C'est comme si on mettait deux ou trois Europes. Donc voilà, donc c'est pas choquant. Deuxièmement, il y a cette idée que il y a eu une progression extrêmement forte dans les années passées et que ça a été un des leviers de croissance très important. Alors maintenant, pour ce qui concerne la suite, on apprend par exemple que dans le Guangdong, le salaire minimum est plus ou moins bloqué, mais le Guangdong, c'est la province riche par excellence qui perd ses travailleurs parce que précisément le coût de la vie est beaucoup trop élevé et le coût de la main d'œuvre devient très élevé par rapport au reste. Donc vous voyez, c'est un facteur plutôt positif parce que ça permet aux autres régions de converger progressivement. Voilà ce que m'inspire ce reportage.
Étienne Lehmann, quand on a un salaire minimum, est-ce que cela pousse le reste des salaires à la hausse ?
Justement, c'est la malédiction française.
Ça dépend des cas, oui.
En France, justement, l'un des gros problèmes du salaire minimum, c'est que le salaire minimum français, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la différence avec le SMIC, il y a un mécanisme d'indexation sur les salaires moyens dans l'économie. Et donc, c'est vrai qu'il y a un jeu qui a été, par exemple, particulièrement bien documenté par mes collègues Erwan Gauthier et de l'Université de Nantes, qui est qu'en fait, lorsque le salaire minimum augmente, eh bien, le jeu dans les négociations de branches, ça consiste justement à reporter ces augmentations et à déplacer toutes les grilles de salaire.
Et il est possible que ce soit la même chose en Chine.
Alors, en tout cas, en France, c'est organisé. C'est comme ça que ça marche. Sur le cas chinois, moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il y a eu beaucoup de croissance. Et en fait, le but de l'économie, c'est pas de faire de la croissance. Le but de l'économie, c'est de donner du pouvoir d'achat, c'est de donner des moyens, c'est de donner un revenu disponible, et en tout cas, les moyens de vivre à la population. Et donc, effectivement, en Chine, il y avait un problème de salaire parce qu'il fallait, on pouvait pas avoir de la croissance sans lutter contre la pauvreté. Mais c'est une situation complètement différente de celle que l'on a chez nous.
Alors, voyons une autre situation, parce que jusqu'à présent, nous avons parlé de pays en très fort développement comme la Chine ou de pays développés, mais les pays émergents ou en développement ont aussi adopté le principe du salaire minimum. C'est par exemple le cas du Cap-Vert, petit pays, mais qui a malgré tout un salaire minimum. La réforme date de l'année dernière, sous un gouvernement socialiste qui a depuis perdu le pouvoir. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé de l'envoyé spécial de RFI, Guillaume Thibault, à Praia.
En janvier 2015, une petite révolution s'est enclenchée au Cap-Vert. Le salaire minimum a été pour la première fois fixé, l'équivalent de 11 000 escudos, 110 euros, explique Lima, 29 ans.
Avant, c'était 6 000, 8 000. 60, 80 euros. Après, ils ont augmenté pour 11 000. Mais les employés, ils ont fait un grève. C'est pour ça qu'ils ont augmenté, mais ce n'est pas suffisant.
Si cette fixation du salaire minimum est vue comme un progrès, pour Joséphine, 110 euros, ce n'est pas assez pour vivre.
200 euros, c'est mieux. Parce que dans le marché, tout c'est cher. Pour payer les maisons aussi, payer l'école, tout c'est cher.
Même constat pour Karine, stagiaire à 27 ans, qui enchaîne les petits boulots au black. Car les patrons ne respectent pas tous la loi.
Vous savez pourquoi on accepte, même si on gagne 10 000, on a les 10 000 la fin du mois pour faire quelque chose.
Et comme d'habitude, le patron est plus fort que l'employé.
Si tu réclames, peut-être qu'il va te faire sortir. Il y a quelqu'un d'autre qui est dehors, qui attend pour entrer aussi.
Un patron, en voilà un, va le dire, gère un bar, 15 employés. Pour lui, l'important, c'est avant tout de revoir la fiscalité. Il estime payer trop de taxes.
Trop de taxes. Si j'ai fait 100 euros, 50-60% c'est pour payer les taxes. L'électricité et de l'eau sont les plus chères du monde. Les communications sont les plus chères du monde. Et c'est pas juste ça.
Tiffany a 35 ans, elle n'a pas voté aux dernières législatives. Frustrée, dit-elle, de voir que les leaders politiques ne respectent pas leurs promesses.
Tu vois, tout l'argent qu'ils ont gaspillé dans les routes, ils pouvaient donner des aides ou des salaires ou augmenter le salaire minimum. Bon, pour ces élections-là, les deux partis, ils ont tous promis, oui, on va essayer de mettre à 150 euros. Maintenant, il faut s'asseoir et attendre.
Lors de la présentation du tout nouveau gouvernement, le Premier ministre a confirmé que l'emploi serait la priorité, mais n'a rien dit sur cette question sensible du salaire minimum.
Un reportage signé Guillaume Thibault à Praia. Question sensible que le salaire minimum, disait-il, Benjamin Corrie.
Ben oui, parce que jusqu'à présent, on a discuté en économiste, et ben c'est normal, c'est notre métier, du salaire minimum en tant que levier, support de croissance, etc., à quelles conditions ça favorise. Et, bon, ce qui est une dimension, évidemment, tout à fait clé, hein, parce que, voilà, il faut que l'économie
soit... C'est le cas aussi en Afrique.
Bien sûr, bien entendu. Il faut que l'économie soit capable de générer des emplois. Mais l'autre dimension du salaire minimum, et on commence à toucher cette question de manière extrêmement sensible, c'est assurer un minimum de dignité dans les conditions de revenus des gens. La relation salariale, hein, on en a beaucoup parlé avec la loi El Khomri, il faut quand même le rappeler, c'est d'abord une relation de subordination, hein, c'est d'abord une relation asymétrique, bien. Et si donc il n'y a pas un minimum de protection dans cette relation asymétrique, ça peut donner lieu à tous les excès. Alors je ne veux pas faire de misérabilisme, mais on la connaît l'histoire, hein, et dans le passé et dans le présent. Donc, c'est là qu'on touche à des questions complexes concernant le salaire minimum. C'est qu'il y a une dimension économique qui doit tout à fait être prise en compte. À quelles conditions c'est un levier d'activité, de création de richesses, et jusqu'où il ne faut pas aller pour ne pas risquer éventuellement de compromettre ce bénéfice. Mais l'autre dimension est tout à fait sérieuse aussi. C'est un instrument pour limiter l'arbitraire et faire en sorte que, en dépit de la relation de subordination qui est celle du salariat, les salariés puissent être rémunérés de manière correcte. Et c'est cette double dimension qui rend la question si riche et si compliquée.
Étienne Lehmann, c'est un instrument pour combattre les inégalités et moduler le lien de subordination
en général,
entre salariés et employeurs.
En général, je crois il y a une règle en politique économique, c'est un objectif, un instrument. Et là, vous parlez de deux objectifs, c'est-à-dire...
Non, moi qui choisis, hein, c'est la nature de la chose.
Et
là, en tout cas, vous parlez de deux objectifs, à savoir, justement, contrer éventuellement le lien de subordination et réduire les inégalités. Alors, sur le deuxième, est-ce que le salaire minimum est si efficace pour limiter les inégalités? En fait, on se rend compte, les dernières études se rendent compte qu'en fait, pas forcément. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. En France, quelqu'un qui aujourd'hui vit, disons, en province, avec un couple, à plein temps de SMIC, c'est 2900 euros brut par mois. Quelqu'un qui, par contre, avec le même SMIC, travaillerait à mi-temps en région parisienne, je vous laisse imaginer son pouvoir d'achat. Donc vous voyez très bien que le salaire minimum, parce que justement, chez nous, il est horaire, chez nous, il est uniforme, chez nous, il ne s'adapte pas au coût de la vie d'une région à l'autre, finalement, cible trop mal les véritables travailleurs pauvres de la région parisienne qui font face à un coût de la vie particulièrement élevé, et n'atteint pas son objectif. Le vrai rôle du salaire minimum, c'est pas ça, c'est pas la redistribution. De ce point de vue-là, l'instrument fiscal est beaucoup plus efficace, parce que l'instrument fiscal, on peut le moduler. On peut le moduler selon la composition de la famille, on peut le moduler selon la région, on peut le moduler selon plein de paramètres, et on peut aussi le moduler pour permettre de maintenir un niveau de vie dans un certain nombre d'emplois qui sont clés et qui nous manquent, tout en maintenant ces emplois économiquement rentables. Le salaire minimum pour la redistribution, c'est paradoxalement pas un si bon objectif que ça. Le rôle du salaire minimum, c'est lorsque justement l'employeur est beaucoup trop fort pour imposer des normes salariales et pour casser justement l'équilibre de la norme. C'est pour ça qu'il est utile en Chine. C'est pour ça qu'il est utile et qu'il peut être utile dans une certaine mesure. Je suis pas certain que le $15 de l'heure aux États-Unis soit une bonne norme. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'aux États-Unis où la présence syndicale est beaucoup trop faible, c'est pour ça qu'il a un rôle à jouer. Oui. C'est pour ça que chez nous, il ne l'a pas forcément.
Non, mais on est revenu un peu au début de notre.
Oui, absolument.
On est revenu au début de notre entretien. Je veux dire, moi, je vous trouve absolument. formidable d'imaginer que aujourd'hui en France, etc., on va utiliser l'instrument fiscal pour faire de la redistribution, etc., alors qu'il y a une pression de tous les côtés sur le thème « Ah, il y a trop d'impôts, ah, il faut baisser les impôts », où le président lui-même, hier, socialiste, a fait l'éloge du fait qu'on a baissé le niveau de prélèvement fiscal. Donc, je veux dire, rejeter sur la pression fiscale et la redistribution l'équité, c'est vraiment d'un irréalisme, je suis désolé de le dire, qui me paraît atteindre des sommets. Bon, alors qu'il y a une inégalité des revenus qui ne cesse de croître, qu'il y a des prélèvements rentiers de toutes sortes, en particulier liés au niveau de versement des dividendes, etc., se priver d'instruments touchant la redistribution primaire, c'est vraiment s'interdire toute possibilité. Parce que celle que vous évoquez, elle est idéalement tout à fait envisageable. Mais en pratique, il est totalement exclu, malheureusement, que dans les conditions de rapport de force actuelles, que dans les conditions de déficit fiscal actuel, etc., la redistribution puisse jouer le rôle de compenser des inégalités qui continueraient à se creuser au niveau de la distribution primaire.
Une réponse d'Étienne Lehmann.
Voilà.
En France, les inégalités de salaire horaire parmi ceux qui ont un emploi diminuent.
Oui, mais il y a tous ceux qui n'en ont pas.
Justement, s'exprime.
Justement, le problème de la France, c'est pas l'inégalité parmi ceux qui ont un emploi, c'est justement de donner de l'emploi à ceux qui n'en ont pas. Aux États-Unis, au contraire, les inégalités augmentent. Donc la problématique est différente. Aux États-Unis, les 1% les plus riches de la population gagnaient en gros 10% des revenus totaux il y a 40 ans et aujourd'hui gagnent 20%. En France, on est resté, grâce à notre fiscalité, à 10%. Donc le problème de l'économie française, c'est de créer des emplois. Le problème de l'économie américaine, c'est qu'effectivement, les inégalités explosent. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas à avoir la même réponse d'un côté de l'Atlantique et de l'autre, me semble-t-il.
Eh bien, c'est sur cette divergence euro-américaine et entre Benjamin Coriat et Étienne Lehmann que se conclut cette émission. Elle était réalisée et mise en onde par Victor Ouvrard. Merci à vous deux, Étienne Lehmann et Benjamin Coriat, d'y avoir participé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.